Nous lirons trois versets sur lesquels nous allons méditer ce matin, à partir de verset 44, l'évangile de Matthieu, chapitre 13, à partir de verset 44. Voici à quoi le royaume des cieux est semblable. Un trésor caché dans un champ, l'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a pour acheter ce champ-là. Voici encore à quoi le royaume des cieux est semblable. Un marchand qui cherchait de belles perles, ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il a pour l'acheter. Jusqu'ici, notre lecture. Habituellement, la prédication du premier dimanche de l'année est consacrée à la devise. Exceptionnellement, le message sur la devise ne sera délivré le dimanche prochain. Mais soyons rassurés, la devise a été choisie, elle a été même bien réalisée. Mais nous aurons plus d'informations dimanche prochain. Aujourd'hui, j'aimerais formuler les vœux de bonne année à chacun d'entre nous, avec ou en se servant de ces deux paraboles que Matthieu nous a rapportées ici de notre Seigneur Jésus-Christ en lien avec le royaume des cieux. Par ces deux paraboles, simples, limpides, Jésus donne un enseignement sur l'entrée dans le royaume des cieux. La découverte du royaume des cieux appelle une décision radicale, un engagement total de la part de celui qui le découvre. La découverte du trésor ne laisse pas les bénéficiaires dans la demi-mesure, mais au contraire, elle les engage dans une action totale. Tous les deux, ils vont vendre tout ce qu'ils possédaient pour acheter ce qu'ils ont trouvé, le trésor qu'ils ont trouvé. En d'autres termes, le disciple qui découvre le royaume des cieux en la personne de son roi, c'est-à-dire Jésus-Christ, ne peut que tout abandonner et s'engager totalement pour accéder pleinement à la richesse de ce royaume. L'engagement qu'exige l'entrée dans le royaume des cieux ne fait aucune place pour un engagement à moitié et encore moins pour les compromissions. Ceux et celles qui veulent entrer dans le royaume des cieux doivent prendre une décision qui implique non seulement 99% de leur temps ou de leur vie, mais bien les 100%, toute leur vie. Aucun domaine ne doit être laissé. Aucune zone ne peut être une zone de non-droit, mais au contraire. Aussi bien l'homme qui a découvert le trésor que le marchand des perles, tous les deux ont vendu tout ce qu'ils possédaient pour acquérir ce qu'ils ont découvert. Le caractère total de cet engagement est souligné d'une manière très forte dans ces deux paraboles que nous venons de lire. Ce caractère total est loin d'engendrer dans le cœur de ces personnes-là un sentiment de privation ou un sentiment de détresse, mais bien au contraire, c'est un sentiment de joie qui accompagne cet engagement. C'est un sentiment de joie qui accompagne cet engagement. Et au verset 44, il dit que l'homme est débordant de joie par sa découverte et par son engagement d'acquérir ce trésor. Tel est donc l'enseignement que le Seigneur Jésus laisse, j'aimerais souligner, pour nous ce matin. C'est la valeur et l'implication du royaume que j'aimerais rappeler pour nous en ce dimanche, dans ce premier dimanche de l'année. Ces deux paraboles sont propres à Matthieu. Le seul à nous les rapporter, comme je disais, c'est Matthieu. Et Matthieu, lorsqu'il fait ces deux paraboles et les associer, c'est des paraboles courtes, mais elles sont bien riches. Par ces paraboles, ces deux paraboles se ressemblent beaucoup, mais elles ne sont pas une simple redite. Bien au contraire, elles se complètent, elles s'enrichissent mutuellement. Nous savons que Matthieu a pris la liberté, bien sûr toujours sous la direction du Saint-Esprit, d'organiser les paraboles ou les enseignements, les paroles ou les enseignements que Jésus avait laissés. Mais ici, il est fort possible que ces deux paraboles soient données à la même occasion par notre Seigneur Jésus-Christ pour communiquer son message. En tout cas, ce n'est pas la première fois que Jésus emploie deux paraboles, ou bien si vous préférez, une double parabole dans l'évangile de Matthieu. C'est déjà le cas lorsqu'il a parlé de drap neuf qu'on colle à un vieux vêtement et de l'image du vin nouveau qu'on met dans des vieilles outres. Les deux paraboles, il les emploie ensemble. Ou bien lorsqu'il parle dans le serment sur la montagne, il emploie d'autres images. Ce ne sont pas des paraboles, c'est l'image du sel. Il dit « Vous êtes le sel de la terre » et aussitôt, il dit « Vous êtes la lumière du monde ». L'intérêt de ce procédé, c'est-à-dire d'utiliser deux paraboles ensemble, c'est de faire ressortir d'une part les éléments importants et d'autre part les éléments complémentaires de l'enseignement de Jésus. Et la comparaison entre ces deux petites paraboles fait ressortir d'abord deux citations qui reviennent presque mot à mot dans ces deux paraboles. La première revient au début de chaque parabole, c'est « Le royaume des cieux est semblable ». Et puis la deuxième, c'est pour décrire l'attitude des bénéficiaires de ces trouvailles, c'est qu'elle dit « Il vend tout ce qu'il possède et achète ». C'est une expression employée aussi bien pour parler de l'homme de notre première parabole que du marchand de perles de la deuxième parabole. Ensuite, la comparaison entre ces deux paraboles fait ressortir aussi la complémentarité et la richesse évoquées par les deux objets trouvés. D'une part, le trésor et d'autre part, la perle chère. Certes, ces deux objets trouvés sont différents, mais leur caractère précieux, leur caractère inestimable et leur caractère de valeur a été souligné dans les deux cas. Arrêtons-nous sur ces deux personnages, les deux personnages de notre parabole. Dans la première parabole, il est question d'un homme, salarié, qui travaille dans un champ de son employeur. En exerçant son travail, il découvre un trésor sans l'avoir forcément cherché. Cette découverte pousse cet homme à vendre tout ce qu'il a pour acheter le champ où se trouve ce trésor. Et en achetant ce champ, l'homme acquiert aussi le trésor qui va avec et il devient de cette manière le propriétaire de ce trésor. En effet, à l'époque de Jésus, il est assez fréquent de cacher des trésors sous terre. C'est l'attitude qu'adoptait par exemple le troisième serviteur dans la parabole des talents, si vous vous rappelez, par crainte de son maître, il a pris son talent et il l'a caché sous terre. Il a enterré. Cette attitude se justifie en partie à cause des violences qui régnaient à l'époque de la Palestine, en Palestine du temps de Jésus. L'endroit le plus sûr pour garder son trésor, c'est de l'enfouir sous terre dans un endroit gardé secret. Et cela a été pratiqué aussi bien par des riches que par des pauvres. C'est ainsi que l'homme dans notre parabole tombe entre guillemets sur ce trésor caché par quelqu'un. Probablement, ce trésor était sous forme des pièces précieuses ou bien des bijoux dans un tissu ou encore dans une jarre. Notre homme ne dit rien à son employeur, au contraire, il cache ce trésor à nouveau, c'est-à-dire il le remet à sa place et va vendre tout ce qu'il a pour revenir acheter le champ et bien sûr le trésor avec. Que penser de l'attitude de cet homme? Est-ce qu'il a le droit d'agir ainsi? Est-ce que ce n'est pas malhonnête vis-à-vis de son employeur d'agir de cette manière? Nous pouvons nous demander si l'attitude de cet homme ne pose pas un problème moral et un problème légal. Problème légal parce qu'il serait tout simplement un voleur et moral parce qu'il serait aussi un menteur. Je pense que la première chose qu'il faudrait dire ici, c'est que la loi, d'une manière générale, condamne aussi bien le vol que le mensonge. Et d'ailleurs, les deux commandements sur le vol et les faux témoignages se suivent dans le décalogue. dans les 10 commandements. C'est l'8e et le 9e commandement. Tu ne commettras pas de vol et tu ne porteras pas de faux témoignages. D'une manière relative à la propriété, la loi aussi est très claire. Elle exige de restituer au propriétaire légitime tout objet trouvé. C'est le texte de Lévitique 5, 21-23, si vous voulez préférer, si vous voulez vérifier, et puis Exode 22 aussi. Donc il n'y a aucune ambiguïté de l'attitude recommandée par la loi à ce sujet. La question qui se pose, comment se fait-il que Jésus, dans ce cas-là, prend l'homme dans notre première parabole comme exemple? Parce que là, il l'enseigne à ses disciples. Il me faut, je pense, considérer quelques éléments du contexte de l'époque pour juger l'attitude de l'homme dans notre parabole et pour voir si elle est condamnable ou pas. En fait, selon la loi juive à l'époque, l'homme dans notre histoire a agi d'une manière tout à fait légale et morale. Il nous faut noter quelques précisions pour comprendre cela. La première, c'est que cet homme est un ouvrier indépendant. Le fait que cet homme a d'autres biens et qu'il les a vendus par la suite pour acheter le champ de son employeur montre bien que nous n'avons pas affaire ici à un serviteur d'un maître ou un esclave d'un maître, comme c'était l'habitude de l'époque d'avoir, qui appartenait donc à son maître, mais c'est un ouvrier indépendant. Il est vrai que si cet homme était serviteur de son maître, il devait faire part de ses trouvailles à son maître, car aussi bien ses trouvailles que lui-même appartenaient à son maître. Mais comme notre homme il a d'autres biens, il peut les vendre pour acheter le champ de son maître, donc il n'est pas esclave de son employeur, mais il est seulement un travailleur journalier indépendant. La deuxième précision qu'il faut apporter ici, qui peut nous aider à comprendre la situation et surtout pourquoi Jésus s'est servi d'un tel exemple pour nous enseigner, c'est le fait que le trésor trouvé n'appartenait pas au propriétaire du champ. Il ne s'agit pas de quelque chose que le propriétaire avait perdu ou égaré et que l'ouvrier aurait trouvé. Mais il s'agit là d'un trésor trouvé enfoui plusieurs années, voire décennies, même des siècles auparavant. Et enfin, la troisième précision, pour la loi juive, telle qu'elle a été codifiée dans la Mishnah, pour qu'un trésor puisse légalement appartenir à quelqu'un, il faut que cette personne le soulève elle-même, si elle peut le faire, si c'est faisable, ou bien il faut qu'elle le traîne, si c'est quelque chose, un animal ou quelque chose un peu de gros. Et dans notre parabole, le trésor n'a pas été soulevé par l'homme. Tant que le champ appartenait encore à son maître, le trésor n'a pas été soulevé. Ce qu'il a fait, il a juste remis la terre dessus. Donc il n'a pas pris le trésor et de cette manière, il ne s'est pas approprié ce trésor d'une manière illégale, d'une manière illégitime. Donc il a remis juste la terre dessus, il n'a pas encore touché. Et je pense, à la lumière de toutes ces précisions, l'homme dans notre parabole, en effet, n'a pas agi d'une manière illégale et encore moins mensongère. Donc nous pouvons être sûrs, il me semble, que le Seigneur ne se servait pas d'un mauvais exemple, en quelque sorte, entre parenthèses, pour enseigner ses disciples. Quant à l'homme de la deuxième parabole, il est un marchand de belles perles. Il est bien différent de notre pauvre salarié de la première parabole. Il est riche, voire même il est à la tête d'une petite fortune. Les perles avaient une grande valeur dans le Proche-Orient ancien. On raconte que la reine Cléopâtre d'Égypte possédait une perle d'une valeur de 25 millions de deniers. Et on sait par ailleurs qu'un denier était le salaire d'un ouvrier, un salaire de journalier d'un ouvrier. Donc en quelque sorte, la reine d'Égypte possédait donc une perle qui vaut 25 millions de journées de travail d'un ouvrier. Ce qui fait, en gros, je me suis amusé à quelques calculs, j'espère que je ne me suis pas trompé, à 68 siècles de travail. Donc juste une perle vaut 68 siècles de travail d'un ouvrier. En fait, notre homme, il est tout simplement à la tête d'une vraie fortune. Et pas d'une petite fortune, mais d'une vraie fortune. Et en plus de la richesse, de cet homme, c'est la recherche active de cet homme qui est soulignée dans notre parabole. Il nous est dit que cet homme cherche de belles perles et quand il a trouvé une perle de grande valeur, il s'en va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle précieuse. Contrairement donc à l'homme de la première parabole, le marchand de perles cherche activement la perle précieuse jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée. Les trouvailles de ces deux hommes sont marquées par leur caractère précieux, valeureux et inestimable. Un trésor pour le premier, une perle précieuse pour le deuxième. À quoi renvoie le trésor, la perle précieuse dans notre parabole ? La transposition de ces deux paraboles sur le plan spirituel conduit à voir derrière la valeur inestimable de ces objets, la valeur inestimable du royaume des cieux que Dieu réserve à ceux et celles qui répondent favorablement à son appel. Le premier message que Jésus a annoncé dans l'évangile de Matthieu est un appel à la repentance et à la foi, parce que justement le royaume des cieux s'est approché. Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Chapitre 4, verset 17. Entrer dans le royaume des cieux n'est autre qu'avoir le salut ou encore la vie éternelle. Dans l'épisode de Jésus avec le jeune homme riche, au chapitre 19 de Matthieu, il y a un parallèle qui est fait entre l'entrée dans le royaume des cieux et le salut et la vie éternelle. Et ça a été fait d'une manière très claire. Jésus déclare d'abord que le royaume des cieux n'empêchez pas les enfants, les petits-enfants de venir à moi, car le royaume des cieux leur appartient ou appartient à ceux qui leur ressemblent. Et aussitôt, le jeune homme riche, il pose la question, s'approche de Jésus, il lui pose la question, que faut-il faire pour hériter, non pas, il n'emploie pas le royaume des cieux, mais pour hériter la vie éternelle. Car pour ce jeune homme riche, avoir la vie éternelle et entrer dans le royaume des cieux est une seule et même réalité. D'ailleurs, cela sera confirmé, toujours dans le même épisode, par la manière de répondre de Jésus. Il passe de la vie au royaume des cieux dans le même passage. Jésus emploie l'expression « entrer dans le royaume des cieux » en parallèle avec « entrer dans la vie ». Et donc, pour lui, « entrer dans la vie » et « entrer dans le royaume des cieux » est la même chose. Par la suite, les disciples font aussi un autre parallèle entre entrer dans le royaume des cieux et le salut. Jésus ne corrige pas ses disciples en leur disant « vous vous êtes trompés », mais bien au contraire, il les rassure que ce qui est impossible aux êtres humains de conquérir par leur propre force, cela est possible pour Dieu, c'est-à-dire d'accorder son royaume à ceux et celles qui se tournent vers lui. Ainsi, dans cet épisode, avoir accès au royaume des cieux, c'est avoir accès à la vie éternelle, c'est avoir le salut. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux, qu'est-ce qu'il y a de plus valeureux ici-bas dans notre monde que le salut de Jésus-Christ, le salut que Jésus accorde à ceux et celles qui croient en lui. Ce bien précieux dépasse de loin tous les trésors, toutes les perles précieuses que nous pouvons posséder ici-bas sur cette terre. Voilà pourquoi il me semble que nous pouvons voir derrière le trésor et la perle précieuse de nos paraboles une allusion très claire à l'accès dans le royaume des cieux, donc à l'accès au salut et à la vie éternelle. Jésus d'ailleurs commence ses paraboles en disant « le royaume des cieux est comparable ». Donc il compare l'accès au royaume avec donc ces richesses précieuses qu'on découvre. L'application que nous pouvons tirer de notre étude jusqu'ici, c'est qu'il y a différents parcours qui peuvent conduire au royaume des cieux. Il y a différents parcours qui peuvent conduire au royaume des cieux. L'homme de la première parabole, c'est le caractère inattendu de la découverte qui ressort d'une manière très forte dans cette parabole. Quant au marchand de perles, c'est au contraire, l'accent est mis au contraire sur les efforts fournis dans sa recherche pour trouver la perle précieuse. Il y a différents parcours pour trouver le trésor que Dieu nous offre en Jésus-Christ, c'est-à-dire le salut. Certains C'est grâce à un contexte familial, ecclésial, qu'ils parviennent à la foi. Ceux-là ont eu le privilège de grandir dans une famille chrétienne, d'aller à l'église dès leur jeune âge, et puis d'entendre, bien sûr, parler de Jésus, du salut qu'il offre à ceux qui croient en lui. D'autres, peut-être, y sont parvenus à la fois d'une manière un peu inattendue, comme l'homme de notre parabole. D'être un ami, un voisin, un membre de la famille, un inconnu, les a invités à une rencontre de témoignage, les a invités à une rencontre d'évangélisation, à un concert chrétien, à une manifestation chrétienne. Et là, ils ont entendu parler de Jésus et du salut qu'il offre ce jour-là. Ils ont saisi ce précieux trésor qui n'est autre que, comme je disais tout à l'heure, Jésus lui-même. Enfin, je voudrais aussi mentionner ceux qui sont parvenus à la connaissance de Jésus-Christ suite à des recherches, parfois des recherches intenses. C'est le cas comme l'exemple du marchand de perles. Ces recherches, elles peuvent être diverses et variées. Par exemple, des recherches religieuses. Beaucoup ont déjà lu, regardé, cherché dans des religions pour finalement parvenir à l'évangile et à la connaissance de Christ. D'autres, peut-être des recherches scientifiques ou philosophiques. C'est en tous les cas, là, il y a un parcours, une recherche, un effort qui a été fait avant de parvenir à la connaissance de Christ. En tout cas, que ce soit d'une manière inattendue ou après des recherches actives, ceux qui ont répondu favorablement à l'appel de Jésus ont saisi la chance de leur vie, tout comme ces deux hommes ont saisi leur chance lorsqu'ils ont découvert cette perle ou ce trésor. J'aimerais ici dire un petit mot à ceux qui sont parmi nous et qui n'ont pas peut-être saisi encore cette chance. J'aimerais leur dire de ne pas laisser cette occasion passer une fois de plus sous vos yeux sans la saisir, sans vous mettre au bénéfice de ce trésor immense qui n'est pas seulement bénéfique pour votre vie présente, mais aussi bien au-delà, pour toute votre éternité. Le deuxième élément qu'il faut relever dans nos paraboles, c'est la réaction de ces deux bénéficiaires face à leur trouvaille. Tous les deux vendent tout ce qu'ils possèdent pour acheter ce qu'ils ont trouvé. Cette réaction est radicale. C'est une décision sans appel. Dans la réaction de ces deux hommes, nous retrouvons deux mouvements complémentaires. Le premier, dans un premier temps, il consiste à vendre tout ce qu'ils avaient, et dans un deuxième temps, se lancer dans l'achat de trésors trouvés. L'homme qui découvre le trésor démissionne sur le champ, il va vendre tout ce qu'il a ou tout ce qu'il avait pour revenir acheter le champ de son propriétaire, de son employeur. En agissant ainsi, il court un risque, même un grand risque, parce que l'homme n'avait pas le droit de déplacer le trésor, comme je vous l'ai dit, donc il l'a remis à sa place. Il appartenait pour le moment au propriétaire, à son employeur, donc il doit le laisser là où il l'a trouvé, avec le risque que quelqu'un d'autre passe par là, le retrouve et le prenne. Le verset 14 précise que cet homme vend tout ce qu'il possède. C'est le projet de sa vie. Toutes ses économies sont mises dans ce projet. Rappelons-le que notre homme ici n'est pas riche, comme c'est le cas du marchand de perles. Donc, c'est auprès de grands sacrifices qu'il va pouvoir acheter le champ de son employeur. En plus de vendre tout, il y a aussi des sentiments d'incertitude liés à cette entreprise. On peut bien imaginer l'angoisse qu'il peut vivre à l'idée de n'être plus sûr si le trésor est toujours à son endroit enfoui ou bien s'il a été trouvé par quelqu'un d'autre. Donc cela montre bien le sacrifice consenti par cet homme. Le marchand de perles, lui aussi, va mettre toute sa fortune sur la balance pour acquérir la perle précieuse. Il vend tout, comme le dit au verset 46. Pour lui, les perles trouvées et vendues jusqu'ici n'ont fait que pressentir qu'il existe quelque part une autre perle, celle qui les surpasse toutes, celle dont l'homme n'aura jamais fini d'admirer la splendeur. Et cette perle-là est suffisamment admirable et suffisamment splendide pour que notre marchand de perles renonce à toutes les autres pour l'acquérir. C'est une manière de souligner la valeur inestimable de cette perle-là. C'est pareil pour le royaume des cieux. La perle du royaume n'est pas simplement de grand prix. En fait, elle est sans prix. Rien ne peut l'acheter ici-bas. Ce que ces deux paraboles soulignent, ce n'est pas tant l'argent ou les moyens mis en œuvre pour acquérir ce royaume. Pour ça, peut-être que Jésus emploie un pauvre et un riche. Mais c'est la rupture de ces deux hommes d'avec leur passé. L'homme renonce à ce qu'il était sa confiance, à tout ce qui était sa confiance, à ce qui faisait sa raison d'être devant la perle à grand prix. Toutes les autres perles pâlissent. Devant le but, devant notre Seigneur Jésus-Christ, tous les autres buts deviennent ou redeviennent ce qu'ils sont, c'est-à-dire des étapes passées et dépassées, comme je parlais tout à l'heure, des recherches, soit scientifiques, soit en religion, des recherches religieuses ou scientifiques. Nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux sans renoncement, sans rupture, sans abandon, sans changer de mode de vie. Jésus dit à ses disciples, il n'aura pas menti. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive, car quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Et à quoi servira-t-il à un être humain de gagner le monde entier s'il perd sa vie? Ou bien, que donnera un être humain en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir dans sa gloire, la gloire de son Père, avec ses anges. Alors, il rendra à chacun selon sa manière d'agir. Matthieu, chapitre 16, versets 24 à 28. Tous ces sacrifices, tout ce prix à payer ne sont rien par rapport à la félicité du royaume des cieux. Ils ne sont rien par rapport à la joie du royaume de Dieu. Ils ne sont rien par rapport à la joie du salut. Au regard de tous ces bienfaits, nous, autant que disciples du Seigneur, de Christ, nous pouvons tout sacrifier à cause du royaume de Dieu. Au regard de tous ces bienfaits qui nous sont accordés, le prix le plus élevé peut être consenti sans grande perte, sans grand regret, sans grande perte pour nous. Car le plus grand sacrifice, le plus grand prix a été payé par notre Seigneur lui-même. C'est lui qui a donné sa vie, qui est mort à la croix pour nous ouvrir le chemin du salut, la route vers le royaume des cieux. C'est pourquoi tous ces renoncements, nous pouvons les faire avec joie, une grande joie, même si parfois il nous faut faire des efforts, voire même il faut nous faire violence pour nous détacher des liens qui nous retiennent et qui nous empêchent d'aller loin dans notre relation avec le Seigneur. En tout cas, l'homme dans notre parabole éprouve une grande joie. Il déborde même de joie, précise le texte, à l'idée de vendre tout pour acquérir ou pour acheter le trésor trouvé. Ce n'est pas avec chagrin que ce monsieur va vendre tout. Ce n'est pas avec chagrin qu'il va acheter son trésor. Mais bien au contraire, c'est avec joie. Parce que tout simplement, il vend tout pour acheter quelque chose de bien plus précieux, quelque chose de bien plus précieux. Il veut acheter quelque chose de ce qu'il n'avait jamais jusqu'alors. Il vend tout pour acheter quelque chose de bien meilleur. L'homme vend par intérêt. Le trésor à acquérir est plus important que tous les biens qu'il avait auparavant. Lorsque quelqu'un se convertit, lorsque quelqu'un vient au Seigneur, qu'il ne s'imagine pas rendre service à Dieu. Au contraire, c'est Dieu qui lui rend service, c'est Dieu qui nous rend service en payant notre dette. Il est gagnant dans l'affaire, si on veut rester dans cette logique-là. Il est gagnant dans l'affaire. Ce que Dieu lui offre est énorme par rapport au sacrifice qu'il lui demande de consentir. C'est pourquoi lorsque nous réalisons l'œuvre que Dieu a accomplie à notre égard, nous ne pouvons que nous émerveiller de ce don gratuit dont nous sommes bénéficiaires. Si Dieu est venu nous sauver, ce n'est certainement parce que nous le méritons ou parce que nous le mériterions un jour, mais c'est par pure grâce. Si Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs, cela que l'apôtre Paul rappelle aux chrétiens de Rome. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, le verset 8. Voilà pourquoi c'est une grande joie de renoncer à toute soi-disant richesse de ce monde pour acquérir la richesse qui les dépasse toutes, la richesse du royaume des cieux. Voilà pourquoi l'homme et le marchand de notre histoire n'ont pas hésité à tout vendre pour acheter ce qu'ils ont trouvé. Par ces deux paraboles, Jésus interpelle ses interlocuteurs et fait appel à leur jugement pour faire le même choix que ces deux hommes de notre histoire. Mais il leur laisse toute la liberté de pensée ou de réponse, entre guillemets, car la réponse n'est pas automatique. Dans une autre parabole que Jésus racontera par la suite, les personnes invitées au festin ont tout simplement décliné l'invitation, ont tout simplement refusé l'invitation en trouvant des excuses, pardonnez-moi de qualifier de bidon, des excuses banales. C'est pour cela que, par ces paraboles, Jésus interpelle ses interlocuteurs. Il les interpelle et il les appelle à exercer leur jugement. À chacun d'entre nous ce matin, la même question est posée. Sommes-nous prêts à nous engager totalement pour marcher avec le Seigneur? À nous qui sommes déjà chrétiens, sommes-nous prêts à nous mettre en œuvre, à mettre tout ce qui est en notre pouvoir en œuvre pour marcher de mieux en mieux, de plus en plus, selon l'espérance qui nous a été, à laquelle nous sommes appelés, qui nous a été accordée en Jésus-Christ? À ceux parmi nous qui ne sont pas encore chrétiens, j'aimerais vous poser la question, êtes-vous prêts à vous investir dans un trésor qui dépasse tous les autres? Êtes-vous prêts à acquérir la perle rare? J'aimerais vous raconter une histoire au sujet de trésor d'une famille, c'était en Algérie, en Kabylie. Une dame âgée avait 9 enfants, dont le dernier était encore mineur lors des faits. Elle était tellement croyante, elle pratiquait l'islam, elle était musulmane, toute la famille faisait les prières. Et le dernier aussi, elle avait appelé Mohamed pour signifier vraiment son engagement avec l'islam. Un jour, cette femme, elle fait un rêve où elle voit simplement la vie de Jésus défiler selon l'évangile tout au long du rêve. Elle s'est réveillée à 4 heures du matin, elle n'était pas la seule, tous les autres enfants ont fait le même rêve, ont vécu quelque chose de fort, de pareil. Ils se sont réveillés, ils discutaient, ils disaient « mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Ils ont compris que c'est Jésus, ce trésor. Ils ont décidé donc de se convertir, mais ils ont dit « comme notre fils, il est petit, pour qu'il ne parle pas à l'école, il ne faut pas qu'on lui dise quoi que ce soit, parce que le dernier dormait encore. » Le matin, au petit-déjeuner, ils étaient en train de prendre le petit-déjeuner. Le petit leur a dit « écoutez, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve que vous avez trouvé un trésor, mais que vous avez décidé de me le cacher. » Et donc, la maman, après la décision de lui raconter ce qui s'est passé, et donc l'enfant aussi s'est tourné vers le Seigneur. Dieu les a gardés, maintenant ils sont grands, donc sans risque pour eux. Mais à l'époque, il y avait des risques pour eux. Il y a un trésor. Vous n'avez pas encore trouvé ce trésor et vous souhaitez savoir un peu plus, nous serions très heureux de vous accompagner dans votre démarche pour chercher ce trésor en priant pour que vous le retrouviez. Mon vœu pour cette année 2011 est que nous soyons de ceux qui s'engagent totalement dans cette marche qui honore le Seigneur et fait grandir nos frères et sœurs dans la foi. et qui fait du bien à notre monde. Amen.